Bonjour et bienvenue dans cette émission. La ville de Goma a été touchée ce mercredi matin vers 4h30 par deux frappes de drones dans la zone du quartier Katindo, rapportent plusieurs sources concordantes. Ces frappes ont causé des dégâts matériels et humains. C'est un communiqué de la MONUSCO publié ce mercredi. Le bilan est de 3 morts, un membre des Nations Unies et 2 civils. Cette attaque est la première à toucher directement un quartier non périphérique de la ville de Goma depuis la fin des combats de l'année dernière, lorsque la ville est passée sous occupation de la FCM-23. Les habitants interrogés par Radio Kapi condamnent fermement cette escalade de la violence observée depuis quelques semaines dans la province, appelant au règlement du conflit par la diplomatie. Pour eux, il est impératif que les acteurs impliqués fassent de leur mieux pour ne pas imposer à la population les traumatismes d'une nouvelle guerre urbaine. Quelle analyse faire de ces bombardements qui interviennent au moment où les appels se multiplient en faveur du respect du cessez-le-feu? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Johnson Ishara. Il est acteur engagé de la société civile du Nord Kivu, il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente, il est également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique, activiste pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Il œuvre en faveur d'un État respectueux des droits, des libertés et de la participation citoyenne. Bonsoir Johnson Ishara.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir à tous les auditeurs.
Et lui en ligne, il défonce Bwakiana Kazi, il est chercheur à Ebouteli, il est gestionnaire des données du baromètre sécuritaire du Kivu. Bonsoir, il défonce Bwakiana Kazi. Voilà, il n'est pas encore là. En ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Vergence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Gaben à Butembo en RDC. Bonsoir professeur Pierre Vergence. Bonsoir professeur Pierre Vergence, est-ce que vous êtes là? Voilà, bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, la ville de Goma s'est réveillée sous le choc d'une attaque ciblée des drones kamikazes. Ces bombardements ont principalement frappé une résidence privée au quartier Katindo, touchant aussi des habitations voisines. Cette attaque est la première à toucher directement un quartier non périphérique de la ville de Goma depuis la fin des combats de l'année dernière, lorsque la ville est passée sous contrôle de l'AFC M23. Sur place, les habitants contactés condamnent fermement cette escalade de la violence observée depuis quelques semaine dans la province et appel au règlement du conflit par la diplomatie. Plus de détails avec Alain Irung.
C'est aux environs de 4 heures du matin que ces explosions ont été enregistrées. Si certains voisins du lieu touché disent n'avoir rien entendu, d'autres affirment avoir clairement perçu le bruit de l'attaque. Sur place, les débris témoignent de la violence de l'impact. Jusqu'à présent, il est encore difficile d'établir avec certitude l'origine de ces frappes. Les habitants de Goma rencontrés ce matin à travers la ville espèrent qu'une enquête indépendante pourra établir les responsabilités. En attendant, la vie suit son cours. Les activités sont normales dans la ville, les écoles ont ouvert leurs portes, la circulation est fluide et les commerces tournent. Devant une école primaire du quartier Imbi, des parents rencontrés ce matin expliquent qu'ils n'ont pas informé leurs enfants du drame pour ne pas les perturber en cette période d'examen. Pour eux, il est impératif que les acteurs impliqués fassent de leur mieux pour ne pas imposer à la population le traumatisme d'une nouvelle guerre urbaine. Dans une ville où l'on tente simplement de survivre, nous n'avons pas besoin du bruit des armes à lâcher une maman qui venait de déposer son enfant avant de rejoindre le quartier Biréré où elle tient une pharmacie.
Merci à vous Alain Irung. Comme vous le savez, une des victimes de cet incident est un membre de l'UNICEF. Dans une déclaration publiée ce mercredi, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance notent exactement ceci. Nous sommes à l'UNICEF profondément bouleversés et indignés par le décès de notre collègue Karine Buissier, tuée lors d'une attaque des drones sur un bâtiment abritant des travailleurs humanitaires à Goma, en République démocratique du Congo. L'UNICEF souligne également que Karine était une humanitaire dévouée qui travaillait sans relâche pour venir en aide aux enfants et aux familles touchées par les conflits et les crises. Nos pensées accompagnent sa famille, ses amis et ses collègues en cette période extrêmement difficile. Les Fonds des Nations Unies pour l'enfance indiquent enfin continuer de recueillir des informations supplémentaires sur cet événement tragique qui nous rappelle à quel point la protection des acteurs humanitaires est essentielle en en toutes circonstances. Je vous rappelle que l'UNICEF œuvre à la protection des droits de chaque enfant, en particulier ceux des plus défavorisés et des plus difficiles à atteindre. Félicitations. Ildefonso Bwakyanakazi, vous êtes chercheur à Ibouteli, vous êtes gestionnaire des données du baromètre sécuritaire du Kivu. D'abord, est-ce que vous êtes là? Bonsoir, parce qu'on n'a pas eu le temps de se saluer au début de l'émission. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir les collaborateurs et bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Votre ligne n'est pas claire, hein? Est-ce que vous avez activé les modes de mail libre? Parlez normalement au téléphone.
Non. Vous n'êtes pas très bien?
Oui, mais est-ce que vous avez mis les écouteurs?
Oui, allez.
Est-ce que vous avez
mis... Non, je crois que c'est bien.
Ok, ça va, on peut y aller. Alors, je rappelle que vous êtes chercheur à Ibouteli, vous êtes gestionnaire des données du baromètre sécuritaire au Kivu. Comment vous analysez cette attaque des drones sur la ville de Goma ce matin?
Alors, les journalistes, ce que les drones ont signalé, c'est que depuis qu'il y a eu la reprise des affrontements à l'est de la RDC, notamment dans les provinces du nord et du sud Kivu, on a vu l'utilisation de plus en plus accrue des drones. Depuis qu'il y a eu des affrontements, des rébellions à l'Est, on n'a jamais eu ce genre d'utilisation de ces outils. Mais là, on voit de plus en plus cette utilisation des drones, que ce soit du côté de FABC et du côté de M23. Et aujourd'hui, ce matin, on a été informé de cet incident qui s'est passé, cette attaque des drones. Qui a ciblé peut-être une position qui était proche de la résidence de l'actuel président de la République, dont certains analystes disent que peut-être que c'était la cible de cet incident, de cette attaque. Et cela montre que de plus en plus, à part les différentes affaires ont été laissées, mais les attaques, les différents belligérants continuent à avoir l'envie des attaques des belligérants, où déjà, sur la fin des mois passés, on sait qu'il y a eu des attaques qui commençaient à s'approcher de la ville de Goma. On a vu l'attaque de Rubaya, dans laquelle le colonel de Goma a été tué. Récemment, ici, on a arrêté aussi l'attaque de Michak. Et cela montre que la ville de Goma a commencé à être proche vraiment de plusieurs attaques. Même ici, simplement aujourd'hui, on se réserve encore, puisqu'on n'a pas encore tous les éléments pour démontrer que peut-être que ces attaques venaient de PFRDC. Mais au moins, on sent qu'il y avait des attaques qui s'approchaient de plus en plus de la ville. Donc, il y avait des attaques, notamment par exemple de Massistance, du côté de la Biondo, du côté de Teki, qui suivait de plus en plus des policiers de M23, ce côté-là. Mais après, ça s'est approché plus de la ville, et aujourd'hui, on a réalisé cette attaque-là. Alors, cela pourrait avoir un impact certainement sur les cadres du M23 qui sont installés à ville de Goma. Parce que là, ils auront plus peur, ils peuvent commencer à diminuer leur mouvement dans la ville, parce que certainement qu'ils peuvent se trouver surveillés. Et à n'importe quel cas, ils peuvent être frappés. Et cela peut avoir un impact réel sur l'attitude de ces cas qui viennent de toi dans la ville de Goma.
Justement, Ildefonso Bwakyanakazi, justement, l'ASM23 accuse le gouvernement de Kinshasa d'avoir lancé cette attaque, chose que Kinshasa n'a pas encore confirmée jusque-là. Et à votre avis, à qui pourrait profiter cette attaque?
Alors, si on voit par exemple les indices, en voyant le déroulement des événements, les différentes attaques que j'ai pu signaler qui sont passées dernièrement. En fait, on serait tenté, peut-être quelqu'un l'a dit, ça serait vraiment du côté des FARDC qui profiterait peut-être que des quartiers dispositifs de billage, par exemple, qui ne seraient pas aujourd'hui installés sur la ville de Goma et profiter de faire cette et voir comment fragiliser ou mettre peur du côté du camp opposé. Et donc, peut-être que pour moi, je disais, il me dit, en voyant la succession des événements, on peut se tenter de dire que bon, qu'est-ce que les FARDC auraient plus intérêt à mettre plus de faire du côté opposé, et à ce moment-là, peut-être que ça peut fragiliser et puis à petit, ça produisait bien très fort.
Alors, les deux belligérants se sont dotés des moyens aériens et depuis quelque temps, la guerre s'est faite par des drones. Qu'est-ce que cela peut signifier, ils défoncent Bwakyanakao, quasi?
Alors, la première chose, c'est que alors, les drones sont devenus des outils de plus en plus efficaces dans les affrontements modernes, dans les attaques, dans les combats modernes. Et toutes les parties à conflit ont eu accès à ces outils. Ce qui fait que chaque partie essaie d'utiliser les moyens qu'il a pour avoir plus de voix ou de plus de valeur sur le terrain et peut-être profiter de la position, hein, des positions qu'ils ont actuellement et voir comment ça utilise de plus en plus la partie adverse. Si aujourd'hui, par exemple, les SADC ont ciblé de plus en plus les positions de M23, mais à par contre, aussi les M23 ont ciblé, par exemple, de plus en plus l'aéroport de Sangane pour essayer de voir comment détruire la base des drones qui est de ce côté-là. On a vu, par exemple, l'attaque de Gavier ou même l'attaque de Sévigné. Les M23 revendiquaient avoir commis cette attaque, avoir opéré pour essayer de localiser cette menace. Et de plus en plus, chaque camp essaie de profiter de ces outils-là pour fragiliser et pour avoir plus de positions du côté adverse.
Merci, Johnson Chara. Vous êtes acteur engagé de la société civile du Nord Kivu. Vous êtes coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Vous êtes également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique, activiste pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Vous œuvrez en faveur, n'est-ce pas, d'un État respectueux des libertés et de la participation citoyenne. Vous, en tant que société civile, quelle est votre compréhension de cette attaque des drones dans la ville de Goma ce matin?
Oui, monsieur Guy, j'ai un vibrant hommage d'abord à tous les auditeurs qui nous captent dans la partie orientale du pays, dans la ville de Goma, Bukavu et dans tout le territoire Calais, Rutshuru, Masisi, tous ces territoires affectés aujourd'hui dont la peur restait bleue au ventre et qu'on est en train de dormir sans avoir l'espoir de se réveiller. Je pense que j'ai vraiment hommage à tous ces compatriotes. Alors, la situation de tout ce qui est en train de se passer à Goma et aux environs, je pense que c'est une zone qu'on peut appeler une zone en guerre. Et il y a des événements qui se passent et qui ne peuvent plus s'y reprendre parce que de toutes les façons, de part et d'autre, on a des forces gouvernementales qui ne sont plus dans ces zones-là et que ceux qui sont imposent leur manière de faire. Et que l'histoire des guerres, monsieur Guy, vous devez savoir que l'histoire des guerres a comme leitmotiv la manipulation de masse, parce que toute la communication autour de ce qui se passe réellement, je vais inviter mes compatriotes à ne pas toujours se fier à ce qui s'est dit, il faut plutôt se fier à ce qui n'est pas dit. Et ce qui n'est pas dit, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, je suis d'accord avec mon compatriote de Boutelli qui a également soulevé toutes ces inquiétudes, et c'est ces inquiétudes-là qui se poursuivent. Mais il faut retenir quand même qu'un élément majeur, ce qui y a eu quand même de part et d'autre, on peut affirmer qu'il y a eu des drones qui ont largué de bombes sur la ville de Goma. Et encore que ces quartiers, c'est un quartier résidentiel, j'ai rappelé encore sur ce micro que même l'endroit qui a été bombardé, c'est un quartier que je maîtrise très bien, c'est une maison, une parcelle qui n'est pas, qui peut être à 100 mètres de la résidence d'ancien président de la République qui est sénateur à vie, jusqu'à preuve du contraire, et que cette parcelle avait l'habitude de faire loger l'actuel président de la République, ce juste sur les triangles.
L'actuel président de la République.
Oui, voilà, quand il est de passage à Goma, c'est cette résidence-là qu'il avait l'habitude, bien entendu, parce que ça fait déjà plus d'un an qu'il ne sera pas à Goma, il avait l'habitude de prendre son repos là-bas. Alors, cela soulève, c'est comme un arbre maintenant qui cache la forêt quand on entre dans la profondeur. Mais la profondeur ici, il faut admettre que ça soit les forces armées de la République démocratique du Congo, on a des drones, qui s'assoit le 1-23 avec tous les rapports que les experts des Nations Unies ont y a publié, ils ont des drones, et ces drones ont fait des actions sur la ligne de Kibati au niveau du territoire de Nyiragongo dans le Rutshuru et sur le front dans le territoire d'Uvira. On a entendu également ces drones être dans les airs autour de l'aéroport de Kisangani, où même quelques drones ont été interceptés. Et je pense que même l'attaque là qui ont touché l'aéroport de Kisangani, que le 123 s'est félicité d'avoir voulu étouffer le feu à l'origine. Donc ils étaient en train de dire tout haut qu'ils ont des drones qui peuvent faire survoler sur l'espace aérien de la République démocratique du Congo et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et de l'autre côté, nous avons également le Rwanda, dont, que ce soit les États-Unis, la France et tous les experts des Nations Unies ont également affirmé que ce pays continue à accompagner l'M23 AFC dans toutes les opérations militaires. Et je pense que ça continue à énerver du point de vue diplomatique, parce que le Rwanda n'arrive pas à faire respecter le cessez-le-feu, dont voilà, ils ont validé ça au niveau de Washington. Donc on peut se mettre d'accord quand même que ça soit le Rwanda, que ça soit le 23, que ça soit le FARDC, ils ont des drones. Mais dans l'opinion, maintenant, le drone ont bombardé dans la ville de Goma. La bonne question était de savoir c'est qui s'est révisé dans ces détonations, dans ces bombes qui ont été larguées. Alors en essayant d'approfondir, on peut rester sur un, c'est voilà, tous les arguments aujourd'hui sont suspendus sur la toile d'araignée, parce qu'en réalité, avec une crise comme ça où les bombes tombent quand même dans une grande ville comme Goma, la première personne qui devrait nous informer, c'est soit le porte-parole de FARDC ou soit le porte-parole du gouvernement. Et jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'ils ont parlé sans que cela ne soit diffusé, on n'a pas encore réussi ce son de cloche. Alors, la nature a horreur du vide. Et ça, je rappelle au gouvernement congolais, la nature a horreur du vide. Face à un danger éminent comme celui-là, on ne peut pas se taire. Plus vous vous taisez, plus vous laissez les spéculations prendre de l'ampleur, et la première spéculation, elle est celle-là. De l'autre côté, ce qui dirige la ville de Goma sont montés au créneau. Ils ont activé leur armée numérique pour nous informer que c'est les FARDC qui ont largué cela. Alors, à quand le son de cloche? De l'autre côté, je suis également le ministre rwandais qui est en train de s'acharner sur le média français en disant « Mais vous dites que l'armée, l'M23 accompagné par le Rwanda, mais vous avez oublié de citer que c'est Kinshasa qui est en train de tuer ses compatriotes. » Donc, on sent quand même que cet acharnement prend de l'ampleur, et ça ne m'envoie pas à conclure hâtivement sur cette situation, parce que je rappelle ici que la communication pendant la période des guerres, c'est une communication de manipulation, et souvent la vérité n'est pas dite dans les premières heures. Mais tenez, on peut partir quand même de certains faits. Je rappelle ici, Monsieur Guy, que je suis en train de suivre la situation et l'évolution de cette fameuse guerre à Goma. Et vous vous rappellerez d'abord de ces incidents qui ont causé la mort du général Turimami. C'était quoi la communication autour de cet incident? La première ou le premier camp qui a communiqué sur ça, encore, c'était le 23. Qui annonce le Congolais que voilà, nous venons de toucher le général sur la ligne de front. Ils nous ont informés en premier. Pendant toute la journée, la communication gouvernementale n'avait rien dit. Et les communications officieuses, qui n'étaient pas tellement officielles, mais officieuses du gouvernement, rapportaient que c'était juste un petit incident. Il fallait attendre alors dans la fin de la journée pour qu'on nous annonce maintenant que le général n'y est pas, sans qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé. Même en se fiant sur cette communication de ceux qui ont lancé cette communication en premier, on s'est rendu compte que dans les faits, c'est pas ce que les témoins ont rapporté qui était là. Alors, pourquoi? Déjà, si vous voyez leur communication pour ceux qui sont à Goma, ils nous ont quand même... Il y a deux choses qui peuvent attirer l'attention. De la manière dont ces images ont été récupérées rapidement dans cette nuit, de la manière dont le bilan a été rapidement été relayé, et de la manière dont ils ont réveillé les gens dans les premières heures pour les informer de tout ce qui s'est passé. On avait comme l'impression que c'était une histoire qui était préparée et qu'il y avait des gens qui attendaient qu'on puisse activer quelque chose pour lancer sur la toile.
Donc on peut dire qu'aucune hypothèse n'est à écarter.
Pour le moment, aucune hypothèse n'est à écarter, parce que quand on suit exactement cette communication et quand on entre en fond, on se poserait la question de ce qui se passe. D'ailleurs, j'en profite pour vous informer que aujourd'hui, au même moment qu'ils étaient en train de travailler sur quelle est leur transformation à donner à l'opinion, déjà, il y a des chefs, des leaders communautaires, c'est comme ça qu'on les appelle, des leaders locaux, les chefs de quartier, les chefs d'avenue, qui étaient convoqués dans une réunion urgente dans la ville de Goma pour pousser la population à être dans les rues demain. Et être dans les rues demain, c'est pas pour que c'est la voix de la population. C'est-à-dire, c'est le 1-23 lui-même qui veut envoyer la population dans la rue et dire, nous ne voulons plus le bombardement de Kinshasa. Donc, j'alerte quand même sur ça parce que notre peuple n'est pas à mettre comme char de canon et on ne peut pas le forcer à être dans les rues s'ils ne veulent pas être dans les rues.
Et justement, comment la population réagit face à cet événement? La population de Goma.
La population de Goma, n'oubliez pas que ce peuple a connu d'abord ces incidents-là pendant 4 jours, au mois de janvier. 4 jours, sans connexion, sans courant. Après 4 jours, cette même population était dans les rues pour ramasser des cadavres, monsieur Guy. Donc je vous parle de cette population qui est déjà traumatisée par cette mise en scène que les décans continuent à faire jouer. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, là où des éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent. Et tenez, même quand vous prenez le bilan, de la manière dont on présente le bilan, moi ça m'énerve. Le bilan, on nous parle qu'il y a 3 personnes mortes. Mais parmi les 3 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui est en train d'être citée. Comme si on dirait que dans ces 3 personnes, il y a une personne plus spéciale et qu'on connaît tout le monde et que les 2 autres ne sont pas connus. Et si vous entrez en fond, vous allez vous rendre compte que ces 2 peut-être sont des Congolais qui travaillaient dans ces... Et pourquoi ils ne sont pas cités? Est-ce qu'ils ne sont pas des humains? Et c'est comme ça qu'il y a... tout le jour, des gens sont en train de mourir dans le prison à Goma, et on n'en parlait pas trop. Les gens sont en train de croupir des familles dans la ville de Goma, et on n'en parlait pas trop. Et je pense qu'en réalité, ce que la population veut, c'est que ces histoires prennent fin. Si c'est par la voie du dialogue, ils doivent s'asseoir et respecter le cessez-le-feu pour qu'il y ait retrait progressif de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Parce que je rappelle ici que s'il y a ces bombardements, c'est parce qu'il y a une armée qui a pu traverser les limites pour entrer dans notre pays. Et s'il y a ces bombardements dans la ville de Goma, c'est aussi parce que nous n'avons pas réussi à bien gérer notre appareil sécuritaire jusqu'à ce que nous n'avons pas de forces armées dans cette zone.
Merci. Professeur Pierre Vigence, est-ce que vous êtes là?
Oui, tout à fait, oui.
Bonsoir, parce qu'on n'a pas eu le temps de se saluer au début.
Oui, bonsoir, oui.
Voilà, je rappelle que vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège, en Belgique, et de Graben, à Butembo, en RDC. Quelle est votre lecture de cette attaque de ce matin à Goma?
Vous m'entendez bien maintenant, vous recevez?
Non, difficilement, difficilement. Vous avez activé le mode main libre?
Non, je suis avec le téléphone à l'oreille, il fonctionne... moins mal que mon mode main libre.
Essayez de bouger un peu. Essayez de bouger.
Oui, j'essaye de bouger. Là. Oui, j'essaye. Alors, ce que je voulais dire...
Allô, professeur.
On sait qu'il y a... Bon, allô, vous m'entendez?
Oui, allez-y.
Ok. C'est une chose est sûre, c'est qu'il y a au moins 3 personnes qui sont mortes. Ça, on le sait. C'est des communiqués de la MONUSCO directement. D'autre part, on sait également que les personnes qui ont été touchées sont désignées, même si on ne donne pas leur nom, comme des civils, et une dame qui travaillait pour l'UNICEF. Donc, autrement dit, ce ne sont pas des cibles militaires. Donc, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont été touchées ne représentaient en rien un intérêt stratégique. Donc, cette frappe, on doit d'abord la qualifier militairement comme une frappe ratée. Donc, visiblement, à moins que tout d'un coup, un membre du personnel de l'UNICEF représente un intérêt stratégique, mais visiblement, c'est une frappe qui n'a pas touché sa cible. Et je reprends effectivement la réflexion de Ildefonse tout à l'heure. Il est possible que l'objectif était de simplement faire régner la peur chez les dirigeants du M23. Et donc que les dirigeants du M23 ne se sentent pas en sécurité en se promenant dans la ville de Goma. Ils savent qu'on peut les toucher. Mais en même temps, le drone qui a été envoyé de nuit, On sait que ce drone, alors effectivement, on dit que c'est un drone et les gens qui ont témoigné dans les environs, qui étaient contactés par les médias, confirment que c'est un bruit de drone qui les a réveillés ce matin-là. Et donc effectivement, le problème, c'est que on ne parvient pas à savoir précisément qui était visé. Et par qui? On peut quand même supposer que ce n'est pas le M23 qui a tiré, parce que votre intervenant précédent vient de le dire, le M23 fait assez de dégâts dans la ville de Goma, il n'a pas besoin d'inventer des drones pour tuer des gens, il n'est pas à trois personnes près, hein, donc je veux dire, oui, il est en guerre, donc c'est pas, il n'a pas besoin d'inventer des drones, mais probablement que c'est donc un tir ennemi contre le M23, qui visait quelqu'un du M23 quelque part dans ce quartier résidentiel où habitent effectivement des officiers, etc., etc., en campagne. Et donc, là, c'est fort possible qu'on aille dans l'escalade logistique, hein, technologique, que nous voyons avec l'utilisation des drones par les deux protagonistes de cette guerre, eh bien, on voit qu'il y a une généralisation des moyens électroniques d'agression, on voit qu'il y a une possibilité beaucoup plus facile maintenant d'acheter des moyens électroniques de nuisance, et donc on peut se dire que nous avons maintenant une nouvelle guerre qui commence, où il y a moins d'hommes qui sont utilisés pour tuer, et il y a plus de machines qui sont utilisées pour tuer. Et alors, ce qui est sûr aussi, c'est que les populations locales, elles sont méprisées par tout le monde, et donc, effectivement, il faut que l'opinion publique se dresse contre les belligérants en tant que tels, et qu'effectivement, on puisse retrouver un peu de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Et pourquoi, à votre avis, professeur, pourquoi cette escalade s'observe seulement au moment où les appels se multiplient en faveur d'un cessez-le-feu?
Bien, d'abord, le cessez-le-feu a déjà été signé, hein, n'oublions pas. Hein, le cessez-le-feu, l'appel au cessez-le-feu, il a été fait en novembre, il y avait une signature à Doha, il y avait une signature à Washington en décembre, donc le cessez-le-feu, il est acté en principe, mais acté, signé, ça ne veut pas dire mise en pratique. Et donc, je dirais, le problème n'est pas tellement le timing. Ici, c'est le timing est lié, à mon avis, à la logistique. Hein. On a évoqué effectivement la question de l'utilisation de drones à Kisangani, à Biaya, etc. Mais je pense que la question ici n'est pas tellement liée à la question du cessez-le-feu. Je crois que le cessez-le-feu, on peut être clair entre nous, hein, on n'est que entre Congolais. Il a été signé à Washington par Tshisekedi et Kagame, qui n'avaient aucun des deux l'intention de respecter leur signature. Et Trump n'avait aucune envie que le cessez-le-feu soit respecté. Trump voulait juste avoir accès au coltan, notamment du Congo.
Alors, et pourquoi ces deux parties semblent réticentes, n'est-ce pas, quant au respect du cessez-le-feu? Quel bénéfice ces deux parties pourraient tirer d'une situation caractérisée par les hostilités, professeur Virgence?
Évidemment, à continuer.
Professeur, est-ce que vous êtes toujours là? Problème de connexion. Johnson Nishara, cette escalade contraste avec les engagements pris par les différents belligérants, n'est-ce pas, dans le cadre des différents processus de paix sur les plans régional et international. Peut-on conclure par là que les partis n'ont pas confiance à ces différents processus de paix?
Non, je pense que de le départ, nous l'avons dit et nous continuons à le dire, ces engagements n'avaient jamais été honnêtes en partant de sa forme, c'est-à-dire de présidents qui disent trouver un accord de paix, signer un accord de paix, mais qui refusent quand même de se saluer, c'était scandaleux, ça voulait tout simplement dire, voilà, montre à la face du monde que nous nous sommes rencontrés, mais en réalité, chacun rentre chez lui pour faire ce qu'il veut. Et de part et d'autre, on attendait quand même ces retraits. On voulait assister à ces retraits de militaires rwandais sur le sol congolais depuis que ça soit l'accord de principe signé à Doha, que ça soit également l'accord de paix à Washington, et ça n'a pas marché. Ça prouve tout simplement qu'il y a un problème de bonne foi. Et le bonne foi, c'est-à-dire que chacun est en train de jouer sa carte. La carte ici, c'est que nous avons quand même du côté Kinshasa, ils doivent savoir sur quel pied ils sont en train de jouer, parce qu'en réalité, on ne refuse pas un état de se défendre, même quand il y a signature de cesser les faits, mais si vous êtes dérangé, vous devez continuer à vous défendre. Et ça, c'est dans le principe des guerres. Mais aussi, nous devons avoir à l'esprit que nous avons déjà 2017, vous le savez, ce sont les enjeux électoraux qui se déclenchent et ça va créer encore une autre tension qu'on aurait pu éviter en résolvant déjà ces tensions sécuritaires. Donc, on est en train de jouer à la montre de part et d'autre et que du côté 1-23, je pense que, je l'ai toujours dit en voyant tout ce qu'ils mettent sur la table comme des conditionnalités, on a l'impression que il ne veut vraiment pas que le processus avance, parce que quand les conditionnalités mises sur la table en disant voilà, nous voulons d'abord, avant qu'on puisse se parler, vous devez libérer tous nos prisonniers politiques, je pense qu'en tant que négociateur, ça, c'est déjà mal parti si vous en faites une conditionnalité pour ça. Et de part et d'autre, Kinshasa, qui doit jouer également ce rôle avec son pouvoir régalien pour avoir l'intention de libérer toutes ces zones et de sécuriser son peuple, et surtout qu'on continue à enregistrer des morts tous les jours, la famine frappe, le problème des santé, les infrastructures aujourd'hui sont à lambeau, l'éducation est à mal dans cette zone, donc il y a toutes ces questions-là qui sont mises sur la table et qu'on doit trouver des solutions. Mais pour trouver des solutions, de l'autre, des parts et d'autres, on doit faire des concessions et pour faire avancer le processus.
Oui, professeur, on me signale que professeur Vivian est revenu. Professeur, vous êtes là?
Oui, tout à fait.
Voilà. Voilà, donc je vous ai posé la question de savoir pourquoi les deux parties semblent réticentes quant à ce qui concerne le respect du cessez-le-feu. Quel bénéfice ces deux parties pourraient tirer d'une situation qui est caractérisée par les hostilités?
Donc je pense que Île-de-France vient déjà d'y répondre en partie. Hein. Donc c'est clair que le M23 a intérêt à continuer à utiliser les territoires qu'il utilise pour enrichir le Rwanda. Hein. Donc c'est des minerais qui vont directement dans les mains des Rwandais. Et du côté congolais, il ne faut pas oublier, Île-de-France vient de le rappeler, il va y avoir des élections en principe en 2027.
Et donc, 2028. Donc, 2028.
Oui, 2028, pardon, oui, tout à fait. Et donc, ces élections, ben, c'est clair que le président se présente, ou un candidat issu du camp présidentiel, ça dépend s'il réussit à changer la constitution ou pas, c'est un autre débat. Mais donc, si le camp présidentiel présente quelqu'un aux élections, eh bien, à ce moment-là, effectivement, ils ont intérêt à pouvoir présenter un bilan positif, c'est-à-dire que montrer qu'ils ont bien défendu la terre congolaise. Merci. Donc, ils ont intérêt à ne pas respecter le...
Merci, professeur Pierre Virgence, merci. Nous allons actuellement donner la parole aux auditeurs qui sont en train de vouloir donner leur point de vue. Et là, pour Île-de-France Bouakianakazi, nous allons écouter cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa, c'est Junior Bompongo. Vous allez réagir à cette réflexion, Île-de-France Bouakianakazi.
Junior Bompongo depuis la ville province de Kinshasa. Ce bombardement survenu au moment où les appels au respect du cessez-le-feu se multiplient soulève de sérieuses interrogations quant à son opportunité stratégique. Eh bien donc, sur le plan militaire, l'impact semble limité. En revanche, sur le plan médiatique et diplomatique, l'effet est immédiat. Dans un contexte où le Rwanda fait face à une pression internationale croissante en raison des accusations persistantes de soutien au groupe rebelle AFC-M23, certains pourraient être tentés de provoquer un choc narratif afin d'infléchir les perceptions et regagner du terrain sur l'échiquier diplomatique. Et bien donc, l'hypothèse d'une diversion visant à brouiller les responsabilités ne peut donc être écartée et mérite d'être examinée avec sérieux.
Île-de-France Bouakianakazi.
À travers tout le coup, j'ai compris le point de vue de notre compatriote. Ce qui est vrai, c'est que tous les acteurs sur ce terrain, chacun joue son jeu, chacun cherche à avoir plus de quotas de ce côté, plus de revenus de rapports de force de ce côté. En voyant aussi tous les processus qui sont en cours, certainement, comme il a dit, aujourd'hui, le Rwanda est sous la pression des États-Unis. Il y a eu des tensions qui sont tombées sur l'armée rwandaise. Il y a eu aussi certains officiers rwandais qui ont été sanctionnés. Et ça, tout ça, ça entre dans le contexte global, tout ce qui se passe, etc. Ou par exemple, moi, je sais que, par exemple, du côté français, qui peuvent vouloir chercher à profiter de cette situation, à tout ce qu'il y a davantage le cas opposé, et avoir plus de valeurs. Plus de rapports de force sur le terrain, et peut-être que lorsque les gens vont revenir sur la table de négociation, à ce moment-là, la partie congolaise, par exemple, pourrait avoir beaucoup plus de biens à donner que, par exemple, la partie adverse. Et donc, moi, ici, en fait, comme je l'ai dit, les sanctions, en fait, il y a des sanctions qui sont tombées. Il y a le gouvernement congolais qui essaie de faire tous les moyens d'avoir aussi, d'essayer de changer le rapport de force sur le terrain. Et le gouvernement congolais peut profiter de cette occasion. Il y a des occasions qui permettent au gouvernement congolais d'avancer et d'avoir des pions dans notre cas, alors il va le faire de plus en plus. Et comme on l'a dit, le contexte aussi politique national entre aussi à lui. On va entrer d'ici là dans le processus électoral. Et donc pour ça aussi, le régime en place pour avoir un mot à dire. Et discours pour vous écouter, nous avons été agressés, mais voici ce que nous avons comme bilan, voici ce que nous avons fait sur le terrain. Et donc, tout ça s'est engagé, et que chaque acteur sur le terrain essaie de jouer sur cette question-là. Mais aussi, la question que moi je me pose, est-ce que, lorsque, par exemple, il y a des attaques sur la ville de Goma, certainement, est-ce que cela va fragiliser la position du M23, et que peut-être aussi, lorsque on va revenir sur la table de négociation, à ce moment-là, peut-être que le M23 n'aura plus beaucoup plus d'exigences à demander lors de ces négociations-là. Est-ce que aussi ces négociations, ne peuvent pas radicaliser de plus en plus le cas du M23 et se dire, ok, comme on n'était pas allé dans le processus, tel qui était établi, alors nous allons aussi ouvrir le fait et peut-être récupérer encore d'autres zones. Alors, cela va, nous allons tous suivre les événements, comment ça va se passer sur le terrain. Et voir quelle sera vraiment l'attitude des responsables du M23 qui serait ainsi les lignes de fond que nous connaissons tous.
Oui, vous dites que chaque camp essaie de jouer son jeu. Et dans ces jeux-là, où est la part des garants, n'est-ce pas, des différents processus de paix, notamment les États-Unis et le Qatar?
Oui, alors, pour tous les médiateurs, en fait, pour tous les processus de médiation, on a appelé ce monsieur. Je crois que ce soit pour le processus de Washington, que ce soit pour le processus de Doha, et même le processus africain. Et dernièrement, on a vu l'Angola qui est encore revenu dans la DAS pour demander encore à ce processus de se sélectionner. Mais le problème, c'est que les acteurs de l'éducation appellent au processus de se sélectionner, mais tous les acteurs qui sont sur le terrain ne gagnent pas. Parce que chacun veut jouer, chacun veut avoir une force, une position de force. Lorsqu'il y aura peut-être des négociations ou bien d'autres tables de rôle qu'on va organiser et avoir plus de gens que l'autre, parce que sur le terrain, on est à rapport de force. Et donc, c'est pour ça que les médiateurs, certainement, essaient de faire ces appels, essaient d'appeler toutes les parties. On se fait laisser, mais les réalités sur le terrain disent plutôt le contraire.
Merci, Johnson Ishara Boutara Gaza. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kalemie dans les Tanganyika. C'est Pierre Kiboué.
Ingénieur Pierre Kiboué, depuis la ville de Kalemie, province du Tanganyika. Les attaques des drones à Goma sont un sujet très sensible et controversé. Nous condamnons fermement les attaques des drones qui ont fait des victimes civiles à Goma. Les vrais responsables de ces actes criminels doivent être identifiés et tenus pour responsables. La protection des civils et des travailleurs humanitaires est une priorité absolue. Les attaques contre les civils et infrastructures civiles sont des violations des droits internationaux et ne peuvent est très justifié. Je soutiens les appels à une enquête indépendante pour déterminer les responsables et prendre les mesures nécessaires pour prévenir de telles attaques à l'avenir.
Johnson Ishara Boutaragaza.
Oui, je pense que mon compatriote Pierre Kiboué depuis Kalemie, il a pleinement raison. C'est ce que nous étions en train de dire autrement, c'est que dans cette guerre, c'est vrai, il y a trop de victimes, des innocents. Cette population qui n'a rien à voir avec tout ce qui oppose, ce qui se retrouve aujourd'hui sur les lignes de front, mais qui sont maintenant en train de payer le prix, c'est ce qu'on est en train de voir. Et moi, je rends hommage à toutes ces personnes qui continuent, toutes ces familles qui continuent à perdre les nerfs dans cette barbarie. Alors, il parle justement, les gens doivent être punis par rapport à ce qui se passe. En réalité, moi je suis de ceux qui pensent et notre organisation milite pour cette justice transitionnelle dans ces pays parce que on ne devrait plus donner des tapis rouges à ceux qui continuent à endeuiller ce pays. On ne devrait plus donner de la chaise blanche à ceux qui ont martyrisé, ou plutôt ceux qui ont tué nos compatriotes dans les différents coins. Il faut qu'on arrive à dire stop, vous avez fait du mal contre la République, eh bien il faut attendre la sentence. Parce qu'avec ça, on ne va pas construire une génération qui va élever ce pays, et c'est notre combat de tous les jours. Je suis tout à fait d'accord avec M. Pierre Kiboué depuis Kalemie. Oui, il faut qu'on y arrive. Bon, maintenant la question des enquêtes, c'est vrai, on aimerait que ces enquêtes soient vraiment indépendantes, mais déjà avec l'évolution de la situation, ça pose des sérieux problèmes déjà à ce niveau, parce que vous vous rappellerez, M. Guy, qu'il y a une enquête qui est restée jusqu'au jour d'aujourd'hui surprenante dans l'histoire de la République démocratique du Congo, et cette enquête, c'est la mort d'un secrétaire général des Nations Unies qu'on appelle Dag Hammarskjöld. Il était mort dans un accident d'avion. La boîte noire devrait renseigner qu'est-ce qui s'est passé. Mais on sait quand même qu'il était dans une mission pour se rendre compte de ce qui se passe en République démocratique du Congo et que l'avion a connu une explosion entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Et j'ai suivi récemment les Suédois qui voulaient quand même avoir la vérité sur ce qui s'était passé. Alors c'est pratiquement presque la même situation. Qu'est-ce qui se passe? Les drones ont été lancés. Est-ce que c'est lancé par le M23? Est-ce que c'est lancé par le FARDC? Est-ce que c'est lancé par le Rwanda? Mais si c'est lancé par le Rwanda, si c'est lancé par le M23, on peut noter que ceux qui sont arrivés sur le lieu du drame en premier, eh bien ce sont les militaires du M23. Dans cette nuit, les casquets bleus sont arrivés en dernier lieu. Et encore que, j'ai beaucoup travaillé sur des questions de gouvernance sécuritaire dans cette ville. Je sais que même quand le casquet bleu était là, quand il y avait des mercenaires qui étaient là, il y avait toujours des problèmes sur la gestion des questions, des sensibilités de ces gens, jusqu'au point où même les décans voulaient s'auto-exposer pour montrer que les autres ne font rien. Ça risquerait d'être le même scénario. Alors, est-ce que les enquêtes qu'on va trouver, parce que je continue à dire, il y a toujours des manipulations dans les traitements de ces informations, je souhaiterais qu'on nous dise exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et nous continuons à attendre la version du gouvernement, et je ne souhaiterais pas que demain déjà que ça arrive la journée de demain sans que le gouvernement ne se prononce. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec le compatriote, les enquêtes doivent avoir lieu, on doit nous dire qui était visé, est-ce que le rumeur qui sont en train de courir que voilà c'est l'ancien président de la République, si oui pourquoi il serait visé, ça changerait quoi dans le processus de paix qu'on est en train de vouloir, qu'on veut vraiment avoir dans ce pays, où on veut chercher à vouloir éteindre les faits tout en l'alimentant. Et si vous cherchez à allumer ce fait-là, c'est pour aboutir à quoi? Et si maintenant c'est venu de l'autre côté de l'ennemi, on sait quand même qu'il y a toujours des mises en scène dans ce genre de conflits de leadership, de pouvoir, de conflits économiques. Donc tout peut être dans une rébellion comme ça. Et comme je continue à le dire, il ne faut pas exclure une option dans tous les cas.
Merci, professeur Pierre Vigence. Vous allez réagir aussi à la réflexion de notre auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa. Curieusement, on n'a pas les auditeurs de Goma dans cette émission. Donc un autre auditeur qui appelle depuis la ville de Kinshasa, c'est Nelson Milolo.
Bonsoir Radio Okapi, c'est Nelson Milolo depuis la ville de Kinshasa. Plusieurs hypothèses sont possibles. Quant à moi, je préfère garder l'œil sur celle où les rebelles auraient mené eux-mêmes cette attaque dans le but d'attiser les forces armées de la République démocratique du Congo et surtout laver leur parrain, le président rwandais, qui se trouve actuellement coincé par les menaces des sanctions, dont d'ailleurs certaines sont déjà prononcées. Les rebelles veulent à tout prix inverser la tendance en se faisant passer pour les victimes et pourtant ils occupent depuis un moment illégalement en complicité avec l'armée rwandaise, les territoires congolais.
Professeur Pierre Vivience.
Oui. Ah, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une hypothèse qui tient la route. Ce n'est pas, à mon avis, la plus crédible, mais c'est une hypothèse qui tient la route, c'est sûr. Imaginez que le M23 ait fait tuer par un drone des gens qui ne le dérangeaient pas, qui ne dérangeaient pas les FARDC non plus, c'est possible pour avoir l'air d'être des victimes, des méchants de l'armée congolaise. Mais en même temps, c'est parmi les hypothèses, ce n'est qu'une hypothèse assez faible, l'hypothèse que ce soit des gens des FARDC qui aient lancé un drone sur des informations qui n'étaient plus tout à fait exactes, ben c'est possible. Ils le font, je pense, à signaler que c'était la résidence que Félix Tshisekedi utilisait de temps en temps quand il était à Goma. C'est peut-être un acte symbolique du M23 pour dire que Félix ne pourra plus jamais y aller, mais peut-être aussi que c'est les FARDC qui ont tiré à côté en pensant qu'ils allaient toucher d'autres gens et on ne sait pas trop qui. Puisque peu de gens pensent que Joseph Kabila traîne encore pour le moment sur le territoire même occupé de la République démocratique du Congo.
Oui, professeur, au vu de cette situation, comment peut-on, n'est-ce pas, amener les deux parties à respecter les cessez-le-feu, n'est-ce pas, quand on sait que ces deux parties se sont engagées à respecter ces cessez-le-feu-là, à travers notamment l'accord de Washington, l'accord cadre des Doha, et aussi par cet appel, n'est-ce pas, du président angolais qui avait demandé aux deux parties de respecter les cessez-le-feu. Comment peut-on amener ces parties-là à respecter justement les cessez-le-feu?
Quand on voit les intérêts en jeu, outre les bonnes intentions qui ont été évoquées effectivement tout à l'heure, quand on voit les intérêts en jeu, c'est uniquement avec des rapports de force. Donc autrement dit, si aux États-Unis, à un moment donné, il devient intenable de défendre la posture du Rwanda, et on l'a vu, on a déjà un signe, on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'émission, par la sanction décidée par les États-Unis contre des officiers rwandais, donc là c'est peut-être le signe d'un tournant tout doucement, parce qu'on sait quand même que cette guerre a commencé parce que le Rwanda a envoyé des troupes pour envahir le Congo.
Il défonce Bwakina Kasi, nous tendons vers la fin de cette émission. C'est quoi votre mot de la fin? Il défonce Bwakina Kasi. Est-ce que vous êtes là? Johnson Ishara, votre mot de la fin.
Alors, mon mot de la fin pour l'émission de ce jour, c'est d'appeler à l'apaisement mes compatriotes qui sont dans la ville de Goma. C'est vrai que déjà dans la même nuit, aux environs des 1h, il y a eu des attaques de bandits dans le quartier Majengo et dans le quartier Katoi, et les gens n'ont pas pu dormir. Et quand le bombe de 4h du matin ont encore éclaté, ça fait vraiment trembler beaucoup de familles. Nous continuons à nous joindre à vous parce que nous savons que la situation n'est pas vraiment, vraiment normale. Gardez la tête haute. Je vous invite également à ne pas tomber dans cette manipulation qui est prévue pour demain. Demain, parce que on va encore prendre beaucoup de gens. On va vous forcer à quitter vos maisons pour aller marcher, disant que vous êtes en train de dénoncer le bombardement des FARDC contre je ne sais pas. Non, jusqu'à là, on ne connaît pas qui a né l'OTR, et donc je vous demande encore une fois de faire preuve de votre maturité citoyenne pour ne pas tomber dans ces pièges. Mais pour l'ensemble, que ce soit pour le gouvernement central, je pense que le plus important pour le moment, c'est de faire accélérer le processus de paix. Le processus de paix, c'est-à-dire s'asseoir sur une table et dire voilà, nous avons trouvé un compromis, vous quittez notre terre. Les FARDC rentrent dans toutes ces zones, la police rentre dans toutes ces zones, bien entendu une police professionnelle, une armée professionnelle. personnel qui sera là pour l'intérêt des citoyens et que ce Congolais qui vient de partager, de passer plutôt une année et déjà avec quelques mois, et quand nous partons déjà à Bounagana, ça fait déjà 3 ans qu'il se joint sous son contrôle avec des fouets matin, midi et soir. Il y a des gens qui continuent à mourir dans des prisons parce qu'ils ne prennent plus de l'eau. Et moi, je peux même le dire sur ce micro, je perdis un neveu qui est mort dans une prison à Goma parce qu'il n'avait plus ni de l'eau, ni de la nourriture et aucune assistance. Il y a beaucoup de familles qui ont perdu les leurs. Et tout ce que ces familles veulent, c'est justement qu'ils se réjouissent de dire on peut aussi respirer. Et c'est tout ce qu'on attend. Alors qu'on mette fin à cette politique politicienne qui joue à l'intérêt d'un individu et pourtant il y a un peuple qui est en train de croupir des fins des calvaires de l'autre côté.
Merci, professeur Pierre Vivian, ça vous allez aussi conclure. Hein. Comment vous entrevoyez la suite, n'est-ce pas, du processus de paix dans l'est de la RDC?
On peut dire que le processus de paix n'est en rien touché par l'attaque de cette nuit. L'attaque de cette nuit est visiblement ratée. Enfin, on ne comprend pas qui on voulait viser. Il n'y a en tout cas pas de dégâts stratégiques dans un des deux camps. Ce n'est pas comme l'attaque à Roubaïa contre un porte-parole d'un des deux camps. Ici, c'est tout à fait autre chose. Donc, on peut se dire que le processus de paix, si processus de paix il y a, ben, il va continuer, mais c'est uniquement sous la pression, puisqu'on voit bien que les belligérants, ceux qui sont à la tête des troupes, ben, ceux-là continuent à s'obstiner et ils ne veulent pas faire la paix. C'est ça qui est dommage, alors que nous vivons tous sur la même terre et nous n'avons qu'une.
Merci. Ildefonso Mwakianakazi, est-ce que vous êtes là? Ildefonso Mwakianakazi. Voilà. Apparemment, on l'a perdu. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Ildefonso Mwakianakazi, Johnson Ishara Butaragaza et professeur Pierre Vigence. Merci à tous les auditeurs, n'est-ce pas, qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé, à Pierre Diassinois qui était à la technique, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.